Chapitre 20e. Mon cher enfant, dit Suzanne en revenant s'asseoir auprès de Nézim, maintenant que je t'ai rappelé quelques faits indispensables à l'intelligence de ce que j'ai à te raconter, je poursuis. Ce que l'on est venu vous dire là, tout bas, ma tante, n'était pas une mauvaise nouvelle. Non, mon ami, il s'en faut, et d'ailleurs, je te le dirai plus tard. Mais pour en revenir à mon récit, tu te souviens qu'aux premières lueurs de l'incendie et aux premiers coups de hache donnés à la porte de la maison, Thérèse est accourue épouvantée nous dire que le pavillon au fourrage était en feu et qu'une troupe armée attaquait la maison. Tu te rappelles notre mortelle épouvante? Oh, quelle nuit, quelle nuit! Mais aussi, moi je me rappelle avec un mélange de terreur et d'admiration l'intrépidité que tu as montrée pendant cette nuit affreuse. À quoi bon parler de cela? À quoi bon? Mais parce que cela me fait battre le cœur de fierté. Cher et brave enfant, je t'entends encore nous dire. Ils viennent. La fuite nous est impossible. Je ne peux pas vous préserver du danger, car hélas, mon infirmité m'empêche de le voir. Mais je peux du moins vous faire un rempart de mon corps. Et t'armant, au hasard de la barre de fer de l'un des volets, tu t'es précipité à la porte au moment où elle allait être envahie. Et là, pauvre ami, seul, pendant quelques instants, tu as défendu l'entrée de notre chambre avec un courage et une force surnaturelles. Je vous en prie, ma bonne tante, assez, assez à ce sujet. Assez, comment? Lorsque ma seule consolation, en te voyant blessée, est de me souvenir de ta bravoure, de ton dévouement? Non, non, j'aime à répéter, moi, que la vaillance des plus déterminés aurait pâli auprès de la tienne. Retranchée dans l'embrasure de la porte que tu défendais, la barre de fer que tu avais saisie était devenue entre tes mains une arme terrible. Et quoique ta mauvaise vue t'empêcha de bien diriger tes coups, tous ceux qui s'approchaient à portée de ton bras tombaient à tes pieds. Ah, pendant cette lutte de peu d'instants, quelle devait être l'épouvante de Mademoiselle Sabine! Un tel spectacle pour elle, si craintive, c'était mourir mille fois. Tu te trompes, mon ami? Que dites-vous? Sa fermeté était inconcevable, oui, et à cette heure encore, je me demande par quel prodige elle, car rien n'effrayait, a pu montrer dans cette terrible soirée une pareille force de caractère. Mademoiselle Sabine, c'est incroyable, te dis-je. Pendant que tu défendais si vaillamment notre refuge, cette pauvre chère enfant, il me semble la voir encore, était debout, pâle, mais résolue. Ses premiers mots ont été « Merci, mon Dieu, je mourrai seul, mon père est absent. » Oh, c'est bien d'elle, toujours son noble et grand cœur. Puis, te regardant d'un coup d'œil assuré, presque glorieux, elle m'a dit avec exaltation, en te montrant à moi, « Le crois-tu brave maintenant? Il va se faire tuer pour nous, mais au moins nous périrons avec lui. » Tant de résignation, dit Onésime, en portant la main à ses yeux humides, tant d'énergie chez elle, cela me confond. Peut-être ses cœurs timides, car rien n'effraie habituellement, s'exaltent-ils au contraire dans les grands dangers? Ce qu'il y a de certain, c'est que Sabine s'est montrée héroïque. Elle t'a vu tomber. Lorsqu'enfin, accablée par le nombre et frappée d'un coup presque mortel, tu as été renversée sans connaissance au seuil de sa porte, quatre de ses bandits, dont le chef avait un bras en écharpe, un grand homme pâle à cheveux roux, se sont alors précipités dans la chambre. Onésime est mort pour nous. À notre tour maintenant. Adieu, Suzanne, m'a dit Sabine en m'enlaçant de ses bras et en murmurant tout bas. « Adieu, bon père, adieu. » Aimante et courageuse jusqu'à la fin, dit Onésime en essuyant ses larmes. Je me sentais moins résigné qu'elle. Je venais de te voir tomber sanglant au seuil de la porte. Je me jetais aux pieds du chef de ses meurtriers en criant « Grâce, grâce !» Il étendit sa main, comme pour ordonner à ses hommes de s'arrêter et me dit d'une voix menaçante « Où est le capitaine l'endurci ?»« Le capitaine l'endurci ?» reprit Onésime en regardant Suzanne avec une surprise extrême. « Ce corsaire, dont il y a quelques jours encore nous lisions l'évasion, pourquoi venait-on le demander ici au milieu d'un tel désastre? Et d'ailleurs, ces hommes étaient anglais, je me le rappelle maintenant. Tout à l'heure, je t'apprendrai ce que je sais à ce sujet, mon ami. Je te disais donc que l'homme au bras en écharpe, qui paraissait le chef, m'avait demandé où était le capitaine l'endurci. Je me jetai aux pieds de cet homme en m'écriant « Cette maison est celle de M. Cloarec, monsieur, il est absent. Voici sa fille, ayez pitié d'elle. » « Sa fille ? » dit cet homme avec un éclat de rire féroce. « C'est sa fille, attends mieux. »« Et toi, me dit-il, tu es sa femme ?»« Non, monsieur, je suis la gouvernante. »« Ah, c'est sa fille, reprit-il encore. Et il s'approcha de cette pauvre mademoiselle, dont le courage semblait augmenter avec le danger. Les deux mains croisées sur sa poitrine, comme une sainte, elle regardait fièrement le chef de ses bandits. « Où est ton père ?» lui dit-il. « Loin d'ici, grâce à Dieu, » répondit bravement la pauvre enfant. « Ton père est arrivé hier. Il se trouvait encore tantôt dans cette maison. Où est-il ? Où est-il ? » s'écria ce misérable en la menaçant. Sabine restait muette. Il reprit avec un affreux sourire. « J'ai manqué ton père, mais en t'emmenant toi, je l'aurai. Tu lui écriras d'Angleterre, où je vais te conduire. Tu lui diras où tu es. Il bravera tout pour venir te délivrer. C'est là que je l'attends, et je l'aurai. Allons, suis-moi. »« Vous suivre ? » s'écria Sabine. « Vous me tuerez plutôt. » »« L'on ne te tuera pas. Tu viendras de gré ou de force, choisis. »« Jamais !» s'écria la malheureuse enfant. Alors, il se tourna vers ses hommes, leur dit quelques mots, et ses bandits se jetèrent sur Sabine. Je voulus la défendre, on me renversa, et malgré ses larmes, ses cris, elle fut garrottée. Mais c'est horrible! Et quel était donc le sujet de cette haine acharnée contre M. Cloarec? Écoute encore. On venait de garrotter Sabine, lorsque soudain des coups de feu retentissent au loin avec un grand tumulte, et des cris forcenés. Deux hommes du dehors accourent, disent un mot à leur chef, qui les suit et s'élancent hors du salon. Il n'y reste que les gens qui tenaient Sabine garrottée. Alors seulement, pauvre enfant, je pus m'approcher de toi. Je te relevai. » Et Suzanne, tremblant encore à ce souvenir, se pencha sur le lit de son neveu pour le serrer entre ses bras. « Pauvre ami, » reprit-elle, « d'abord je te crus mort. Aussi, oubliant Sabine, oubliant tout, je sanglotais sur toi, désespérant de te rappeler à la vie, lorsque tout à coup... » Et Suzanne s'arrêta un moment, vaincue par l'émotion. « Oh, parlez, parlez !» « Oh, jamais, jamais, je n'oublierai ce spectacle !» Au fond du salon, deux de ces misérables tâchaient d'entraîner Sabine, malgré ses cris déchirants. Les deux autres hommes, effrayés du tumulte qui croissait au dehors, s'élançaient à la porte, lorsque tous deux, frappés tour à tour à coups de hache, roulent sur le plancher. L'un de ceux qui entraînait Sabine a le même sort. « Mais qui donc les avait frappés ? Qui ?» reprit Suzanne, en frémissant et baissant la voix. Un homme, vêtu d'un costume étrange. Il portait un chapeau à large bord, une longue veste noire et d'amples braies blanches. Une hache à la main, il venait de se précipiter dans le salon suivi de quelques marins. « Oh mon Dieu !» s'écria Onésime en cherchant à rappeler ses souvenirs. « Mais il me semble que mademoiselle Sabine, dans ses accès de terreur, parlait parfois d'un homme aussi vêtu de cette manière étrange et qui était, disait-elle, le meurtrier de sa mère. » « Hélas, hélas !» dit Suzanne en pleurant. Ce souvenir n'était que trop présent à sa pensée. Mais quel était cet homme qui, vêtu de la sorte, venait ainsi au secours de mademoiselle Sabine ?« Cet homme, » répondit Suzanne avec accablement, « était le capitaine corsaire l'endurci. Cet homme était M. Cloarec. » « Lui ?» s'écria Onésime en se dressant sur son lit malgré sa faiblesse. « Quel mystère ! C'était lui, M. Cloarec ?» Oui, il tenait une hache à la main, ses vêtements étaient ensanglantés, sa figure, oh jamais, non jamais, je n'ai vu de figure si terrible, si effrayante. Sabine, ne distinguant pas d'abord ses traits, pousse un cri d'épouvante en disant « L'homme noir, l'homme noir !» Monsieur Cloarec s'élance vers sa fille, elle recule avec horreur en s'écriant « Mon père, ah c'est vous qui avez tué ma mère !» Et la malheureuse enfant tombe inanimée. Oui, oui, ces mots. « Mon père, vous avez tué ma mère. Je les avais vaguement entendus, en me sentant mourir. Ah, c'est affreux. Quelle horrible découverte. Que de larmes, que de désespoir pour l'avenir. Lui, un père si tendre, elle, une fille si aimante. Entre eux, et pour jamais, un abîme. Oh, mon Dieu, vous avez raison, il faut du courage pour supporter une pareille révélation. Et mademoiselle Sabine, depuis, qu'est-elle devenue ? La malheureuse enfant, je te le dis, a été pendant deux jours entre la vie et la mort. Et M. Cloarec, hélas, on ne sait rien de lui. On dit qu'en entendant sa fille lui reprocher la mort de sa mère, il a poussé un grand cri, s'est enfui comme un insensé, et on ne l'a pas revu. Oh, que de malheur, mon Dieu, que de malheur! Mais comment M. Cloarec a-t-il été prévenu de cette attaque, et ces Anglais, d'où venait leur haine contre lui? Déjà, dit-on, Sur deux ou trois points de la côte, ils ont fait de semblables descentes, portant le ravage dans quelques bourgades isolées, puis regagnant leur vaisseau. Ils espéraient s'emparer de M. Cloarec, qui a, sous le nom du capitaine l'Endurci, fait le plus grand mal à la marine anglaise. M. Cloarec, lui, corsaire, mais comment a-t-il embrassé cette carrière de lutte et de péril? Pourquoi ce mystère à ce sujet envers sa fille? Je l'ignore comme toi, mon ami. Depuis cette terrible soirée, il n'a pas reparu. Je te l'ai dit, les marins de son bâtiment à la tête desquels il est venu et parmi lesquels se trouvait le Goffin ont emmené prisonniers les Anglais qu'il n'avait pas tués. Revenu de ma première épouvante, j'ai partagé mes soins entre Sabine et toi, pendant que le Goffin et plusieurs marins éteignaient le feu du pavillon et tâchaient de faire disparaître les traces les plus visibles de ce désastre. Et le Goffin lui-même n'a pas eu de nouvelles de M. Cloarec? Je l'ignore. Mais l'on est venu me dire tout à l'heure que le Goffin, parti depuis hier matin, était de retour. En ce moment, il a un entretien avec mademoiselle. Peut-être lui apporte-t-il des nouvelles de son père. Dieu le veuille. Mais si M. Cloarec survit à son désespoir, quel éternel sujet de douleur et de larmes la révélation de ce fatal secret n'aura-t-elle pas apporté entre sa fille et lui? Que veux-tu que je te dise, mon pauvre enfant? De quelque côté que j'envisage l'avenir, partout il me paraît sombre et désolé. Ah, vous aviez raison, ma tante. Du courage, du courage. Oh oui, il en faut davantage encore pour voir souffrir ceux que nous aimons que pour souffrir nous-mêmes. La garde-malade, entrant dans ce moment, dit à Suzanne « Madame Robert, M. Le Goffin voudrait vous parler ainsi qu'à M. Onésime, s'il se trouve assez bien pour l'entendre. » « Certainement, » répondit vivement le jeune homme en se levant sur son séant. Bientôt, le vieux serviteur parut dans la chambre. Ce n'était plus cette blême et longue figure sérieusement narquoise, cette physionomie froidement railleuse qui provoquait tour à tour l'impatience ou la moquerie de Suzanne. Le visage du digne homme était profondément triste et accablé. Son petit œil, ordinairement si malin, était rougi par des larmes récentes, et l'on voyait aussi quelques traces humides au-dessous de son large emplâtre noir. Car si l'œil qu'il avait perdu en bataillant aux côtés de son maître était fermé à la lumière, il ne l'était pas aux pleurs. Dame Robert n'accueillit plus son vieux compagnon comme par le passé, la malice aux lèvres et l'ironie dans le regard. Elle alla au-devant de lui avec un mélancolique et affectueux empressement. « Eh bien, mon pauvre le Goffin, » lui dit-elle, « quelle nouvelle, bonne ou mauvaise ?»« Je n'en sais trop rien, ma chère Suzanne, » dit le maître canonnier en soupirant. « Cela va dépendre de ceci. » Et il tira de sa poche une enveloppe cachetée assez volumineuse. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Suzanne. « Une lettre de M. Cloarec. »« Grâce à Dieu, il vit !» s'écria Onésime. « Et sa santé ?» demanda Suzanne. « Que voulez-vous, loin de sa fille, après tout ce qui s'est passé ?»« Il est comme un corps sans âme, » répondit le Goffin. « Enfin, sa dernière espérance est dans cette lettre. Et cette lettre est pour vous, monsieur Onésime. Pour moi. Et je vais vous dire ce que vous en devez faire. Mais d'abord, êtes-vous capable de vous lever ?»« Oui, » s'écria le jeune homme en faisant un mouvement. « Oh oui !»« Et moi je dis que non, Onésime. » reprit Suzanne. « Ce serait d'une horrible imprudence. »« Permettez, ma chère Suzanne, » dit le Goffin. « Je suis autant que vous ennemi des imprudences, mais je puis vous avouer cela maintenant. Comme depuis une douzaine d'années j'ai été à même de voir par-ci par-là des blessures de tout calibre, il m'en est resté une certaine expérience. Hélas oui, et à vos dépens, mon pauvre vieil ami, et moi qui vous raillais sur vos blessures lorsqu'elles prouvent votre grand courage et votre dévouement à notre maître. » Et Suzanne se rappelait, non sans attendrissement, avec quelle patiente discrétion le maître canonnier du corsaire avait si longtemps supporté les moqueries dont elle l'accablait au sujet de sa prétendue maladresse, qui lui faisait perdre tantôt deux doigts, tantôt un œil. « Eh bien, Suzanne, reprit-il, ne craignez rien. Je vais tâter le pouls de votre neveu, examiner attentivement son faciès, comme disait notre chirurgien-major, et si je trouve notre brave garçon en état de se lever et de descendre pour une heure dans le salon où il trouvera mademoiselle Sabine, je... Ah, mais non, un instant, » ajouta le Goffin en arrêtant d'une main robuste Onésime qui, au nom de Sabine, voulait se jeter hors de son lit. « Permettez. Je n'ai encore point passé ma visite de médecin. faites-moi le plaisir de rester tranquille, ou sinon, j'emporte ma lettre et je vous enferme ici à double tour. » Onésime soupira, se tut, et subit avec une impatience haletante l'examen attentif de Le Goffin, qui, à l'aide de la lampe rapprochée du lit par Suzanne, s'assura que le jeune homme pouvait, en effet, sans inconvénient, demeurer élevé pendant une heure. « Mais Le Goffin, dit Dame Robert, toujours inquiète, vous me répondez au moins qu'il n'y a aucun danger. Aucun. Fiez-vous à moi. Pourquoi ne pas remettre cet entretien ?
Pourquoi ?
Reprit le maître canonnier d'une voix profondément émue.
« Ah, c'est que, voyez-vous, non loin d'ici, il est quelqu'un qui compte les heures, les minutes. »«
Que dites-vous ? S'écria Suzanne. « Est-ce de M. Cloaret que vous parlez ?»«
Je vous disais, reprit Le Goffin sans répondre à cette question, je vous disais que non loin d'ici, il y a quelqu'un qui attend,
la vie ou la mort. »«
Grand Dieu !
S'écria à son tour Onésime. « La vie ou la mort ?
Ou plutôt l'espoir, ou le désespoir ?»
reprit Le Goffin d'une voix grave. « Et cet espoir, ou ce désespoir dépendra de la lecture de cette lettre. Voilà pourquoi, Suzanne, je demande à votre neveu de rassembler toutes ses forces pour descendre au salon. Car s'il faut tout dire, ajouta Le Goffin d'une voix de plus en plus altérée, avant une heure, le sort de M. Yvon sera décidé. »
D'après la lecture de cette lettre, demanda Suzanne avec autant de surprise que d'anxiété.
« Oui, » répondit Le Goffin en tressaillant. « Et cette lettre, c'est M. Onésime qui doit la lire, à mademoiselle, en présence de vous et de moi, Suzanne, car j'aurai à donner quelques explications dont M. Yvon m'a chargé. « Allons, M. Onésime, du calme, du courage. Mademoiselle est prévenue. Ce qui est fait, ce qui sera, sera. Vous, Suzanne, allez nous attendre auprès de mademoiselle. Je vais aider votre neveu à s'habiller. »
10 minutes après, Onésime, dont la faiblesse était extrême, entrait, appuyé sur le bras de Le Goffin, dans le salon où l'attendait Sabine.